Bonjour, ça va? Bienvenue à tous pour cette table ronde dans le cadre des Journées de l'économie. Nous allons parler avec les cinq intervenants conférenciers des territoires en concurrence. Les territoires se livrent aujourd'hui une concurrence accrue dans un monde qui est devenu un vrai village où tout est interconnecté. L'enjeu est de constituer donc dans ce monde petit village des pôles d'excellence à taille critique. Le futur grand emprunt français, dont on devrait connaître les modalités d'ici à mercredi prochain, devrait donner un coup de pouce supplémentaire à cette recherche de compétitivité des territoires en orientant les crédits vers l'innovation, les universités. La vague de la mondialisation qui a déferlé depuis une vingtaine d'années a accéléré le décollage des économies émergentes, des économies des pays dits émergents, Chine, Amérique du Sud. Dans le même temps, elle a induit des effets parfois dévastateurs, même souvent, sur les spécialités industrielles des pays dits développés. On l'a vu pour le textile, pour la téléphonie mobile. Plus aucune raquette de tennis ne se fait en France. On nous a dit ce matin qu'il y a des risques, et ça a déjà commencé, que les services aussi soient délocalisés. Donc, face à cette réalité, la DATAR, qui a changé de nom, dont je me souviens plus, la DIACT, et le ministère de l'Industrie ont proposé et ont lancé les pôles de compétitivité dont nous allons parler aujourd'hui, que certains appellent les clusters, que d'autres appellent les districts industriels, en Italie notamment. Donc les pôles de compétitivité se définissent comme des combinaisons sur un espace donné de collaboration entre les entreprises, les centres de recherche, les universités. Et ces pôles ont suscité un réel enthousiasme à l'époque et continuent aujourd'hui, mais ils sont un peu moins médiatisés. La crise est venue, mais peut-être que ça sera une façon aussi de rebondir. Ils sont aujourd'hui au nombre de 71. D'aucuns trouveront que c'est trop important. Les pouvoirs publics ont affecté une somme considérable, 1,5 milliard, pour soutenir les projets de recherche dans ces pôles, qui font l'objet de vagues successives d'appels à projets. Dans ces pôles, avec ces pôles, avec la politique de ces pôles, la politique d'aménagement du territoire est passée d'une intervention publique destinée à aider autrefois les régions les plus pauvres, les régions les plus en difficulté, à une politique visant à encourager celles qui sont les plus dynamiques. Donc, pour parler de ces pôles de compétitivité, de l'innovation, j'ai autour de moi cinq personnes qui connaissent très bien le sujet, trois économistes connus. Alors, Thierry Madiès, Thierry Meyer, Sandra Poncet, Monsieur Claude Graff, qui est président du pôle Ténardis et qui est responsable des énergies renouvelables chez Schneider Electric, et Monsieur Henri Jacquot, ancien professeur émérite de Sciences Éco et aujourd'hui élu au Conseil régional, mais chargé de la politique, enfin de l'évaluation des politiques de la région Rhône-Alpes. Voilà. Donc je donne la parole à Monsieur Thierry Madiès, qui défend l'idée que l'innovation est aujourd'hui quelque chose de très très sectorisé, très localisé. Voilà. Thierry Madiès, je vous passe la parole.
Mesdames et messieurs, l'innovation est devenue, et vous le savez bien, l'ardente obligation des autorités publiques dans tous les pays avancés. Vous savez aussi que les objectifs de la fameuse stratégie de Lisbonne sont maintenant un ingrédient incontournable de la rhétorique politique en Europe. Je rappellerai que l'innovation est un phénomène qui est protéiforme, qui est défini par l'OCDE comme la valorisation économique, qu'elle soit marchande ou non, de nouvelles idées qui peuvent concerner toutes les dimensions de la production de biens et de services, y compris sur le plan organisationnel. Mais le point important de mon point de vue, c'est que l'innovation ne peut pas être réduite à des ressources financières ou à des technologies disponibles. L'innovation, et en particulier la connaissance, a les caractéristiques de ce que les économistes appellent un bien public. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la production de connaissances par un agent économique, que ce soit une entreprise ou un laboratoire public, a un rendement pour la société prise dans son ensemble, que les économistes appellent un rendement social, qui est supérieur au rendement privé qu'en retire celui qui la met en œuvre. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que la connaissance, même s'il existe des brevets qui peuvent la protéger temporairement, va être à l'origine de ce qu'on appelle des externalités positives entre agents économiques qui ne sont pas forcément médiatisées par le marché. Autrement dit, nul ne peut s'approprier les retombées des connaissances qu'il a produites de sorte qu'on est en présence de ce qu'on appelle un échec de marché. Ce qui permet de justifier l'intervention des pouvoirs publics pour rapprocher le rendement privé de la recherche de son rendement pour la société prise dans son ensemble. En bref, les études d'impact estiment que le rendement social, donc pour la société dans son ensemble, de l'innovation est de l'ordre de 2 à 4 fois supérieur au rendement privé de celui qui a émis ou mis en place cette recherche. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est bien supérieur aux calculs de rendement qui sont effectués pour les structures de transport. Alors, mon exposé très rapidement se déroulera de la façon suivante. Je vais vous présenter quelques faits stylisés de l'économie de l'innovation. Les économistes aiment beaucoup les faits stylisés. Dans un deuxième temps, j'essaierai d'expliquer pourquoi l'innovation, dont on considère qu'elle est mondialisée, est en réalité aussi très largement localisée et concentrée dans l'espace. Et enfin, je tirerai un certain nombre de conclusions et d'enseignements pour les politiques publiques. Alors, premier fait stylisé, c'est que les activités innovantes sont plus concentrées dans l'espace que les activités de production. Alors, je ne sais pas si vous le voyez correctement, on a tracé ce qu'on appelle une courbe de Lorentz, de la répartition entre les régions européennes, de quelques indicateurs à la fois d'activité, comme le PIB, mais aussi du nombre de brevets qui sont déposés à l'Office européen des brevets. Et ce que vous observez, c'est que plus vous êtes loin de, on va dire, la première diagonale, plus ces courbes sont loin de la première diagonale, plus cela marque un effet de concentration. Donc vous voyez très simplement sur ce premier graphique que les brevets européens sont plus concentrés sur le plan régional que ne l'est, par exemple, le produit intérieur brut. Alors ceci est confirmé par mises en avant statistiques. C'est que vous voyez par exemple aussi que le secteur manufacturier de haute technologie est lui-même plus concentré que le secteur manufacturier de technologie moyenne et a fortiori de basse technologie. Donc vous le voyez, plus les courbes s'éloignent de la première bisectrice, la première diagonale, et plus vous avez un indicateur de concentration qui nous est donné par les courbes de Lorentz, on pourrait obtenir exactement le même type d'observation si on regarde les activités de service. Deuxième fait stylisé, c'est qu'effectivement, il existe plusieurs indicateurs d'innovation, et notamment l'European Innovation Scoreboard utilise 7 indicateurs d'innovation sur environ 200 régions européennes. Et qu'est-ce qu'on observe très simplement ? On observe que dans le secteur de la haute technologie, l'ensemble des indicateurs d'innovation, c'est-à-dire d'input d'innovation, comme par exemple les dépenses de recherche et développement public ou privé, ou d'output, comme par exemple le nombre de brevets déposés, même si cet indicateur est loin d'être parfait. En tout cas, ces indicateurs sont relativement bien corrélés entre eux, je le répète, pour les secteurs de haute technologie, de sorte que chacun d'entre eux peut être considéré, si vous préférez, comme une variable latente de performance innovatrice. Troisième fait stylisé, c'est que la concentration de l'innovation reste stable au cours du temps, Mais en réalité, on observe quand même un léger, quand on fait des tests de convergence, on observe un léger effet de rattrapage. Les régions les plus pauvres du point de vue de l'innovation en début de période sont celles qui connaissent aussi un taux de croissance de l'innovation plus élevé sur la période qui suit. Quatrième fait stylisé, c'est que la géographie semble avoir une dimension, une composante culturelle relativement forte, avec une ligne de démarcation qu'on trouve aussi dans d'autres travaux, entre d'une part, si vous préférez, l'Europe du Nord et les pays d'Europe du Sud, ce qui rappelle un peu la thèse weberienne du rôle majeur qui est exercé par les facteurs culturels et religieux. Cinquième fait stylisé, c'est que le PIB par habitant est corrélé positivement avec le degré d'innovation de la région. C'est-à-dire que sur ce graphique, si on classe en abscisse les régions en fonction de leur degré d'innovation, la région de Stockholm étant considérée comme la plus innovante au sens de l'European Scoreboard, on observe effectivement une corrélation positive entre innovation, entre PIB par habitant, PIB régional par habitant, innovation. Mais attention, il ne faut pas en tirer de conclusion. Cette corrélation ne vaut pas causalité. Hein, et la question qui peut se poser, c'est est-ce que les régions sont plus riches parce qu'elles sont plus innovantes, ou bien sont-elles plus riches et plus innovantes à la fois parce qu'il y a d'autres facteurs communs qui peuvent influer à la fois sur le degré d'innovation et sur le PIB par habitant. Donc ne confondons pas causalité et évidemment corrélation et causalité. Quand on parle de causalité, c'est le seul facteur qui ressort à peu près de toutes les études qui permet d'expliquer pourquoi le PIB régional par habitant est élevé, c'est sans doute le capital humain et la formation qui est à la fois un déterminant de PIB par tête comme facteur d'accumulation et de croissance, mais aussi un facteur d'innovation. J'en viens à la deuxième partie de mon intervention sur la diffusion et la dimension territoriale de l'innovation. On a vu que la diffusion des connaissances a une dimension spéciale, ça c'est clair. Et nous avons dit que les activités innovantes sont plus concentrées au plan régional que les activités de production. Pourquoi ? Parce que la thèse qui est généralement défendue, c'est que la transmission de connaissances est contrainte par l'éloignement géographique. Tout simplement parce qu'elle suppose des relations interpersonnelles intenses et des face-à-face répétées, du moins en amont du processus d'innovation. Or, il existe plusieurs méthodes qui permettent d'évaluer l'importance de la proximité géographique en matière d'innovation, contrairement à cette idée reçue qu'avec Internet, avec le développement des technologies de l'information et de la communication, l'innovation serait sans frontières. Or, il y a une première partie de la littérature économique qui repose sur, finalement, l'utilisation de brevets comme marqueur des externalités de connaissances. Je ne vais pas vous en parler ici, mais je vais vous parler d'un deuxième type de travaux qui ont été réalisés partout dans le monde et en France. Et l'idée de ces travaux, c'est d'étudier les effets des dépenses de recherche et développement, publiques et privées, qui sont effectuées à l'intérieur d'une région, mais aussi à la périphérie d'une région, sur la production d'innovation de cette région. Donc on va essayer de voir, finalement, quels sont les effets de la recherche et développement mis en place par cette région, mais aussi par les régions voisines, sur le taux d'innovation mesuré souvent par les dépôts de brevets en matière d'innovation. Alors, tous ces travaux montrent que plus les activités de recherche et développement sont conduites à distance, et plus les effets sur l'innovation régionale s'atténuent. Dans le cas français, quatre points importants. Il existe de véritables effets frontières au niveau des départements. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les externalités de connaissances, elles vont baisser dès lors qu'on franchit une frontière de département. C'est ce qu'on appelle une contiguïté d'ordre 1. Alors pourquoi au niveau des départements? Parce qu'on dispose de données départementales, mais effectivement, il faudrait travailler sur les agglomérations. Mais les économistes sont souvent contraints par le manque de données. On n'observe pas d'effet frontière au niveau régional, par contre. Deuxième chose, c'est qu'en France, on observe que la recherche privée a un impact qui est trois fois plus élevé en moyenne sur l'innovation que la recherche publique. Troisième point qui est important, c'est que la recherche publique française n'est ni localisée à côté, ni influencée par la recherche privée. Et ceci ne s'observe pas aux États-Unis, par exemple, où il existe une forte coïncidence géographique entre universités publiques et privées et centres de recherche privés. Quatrième point qu'on observe sur les données françaises, c'est que les petites entreprises ne captent pas les effets de la recherche publique, dont on sait d'ailleurs, c'est pas étonnant, qu'elle est très inégalement répartie en France, beaucoup plus inégalement répartie et concentrée que dans des pays comme le Canada, la Suisse ou les États-Unis. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que les petites et moyennes entreprises, et on en parlera au moment des pôles de compétitivité, leur intérêt, c'est qu'elles bénéficieront des retombées de connaissances, sans doute, en se localisant aussi près des grands groupes et à travers les politiques d'ECMAJ. Alors, je finis en ma présentation, pour ne pas trop préempter les autres intervenants, par quelques enseignements rapides en termes de politique publique. Première des choses, on montre que l'innovation, quelles que soient les mesures que l'on retient, par exemple, on aurait pu mesurer aussi à travers les copublications. Est-ce que les copublications, c'est-à-dire la publication d'articles de recherche par des auteurs, par différents auteurs, est-ce que ces copublications sont très fortement concentrées? On trouve qu'il y a une très forte concentration des copublications au niveau départemental en France. Hein? On trouve une forte concentration des dépôts de brevets. Alors, c'est peut-être dû aussi au lieu où ils sont déposés. On trouve une très forte concentration de la recherche et développement. Alors ça a un impact très important. Ça a un impact très important, pourquoi? Parce que si la diffusion des externalités de connaissances dans l'espace est limitée, ça veut dire que la polarisation des activités économiques dans l'espace est un facteur favorable de croissance, mais ça veut dire aussi que cette polarisation de l'innovation va s'accompagner d'un développement apparent des inégalités spatiales, ce qui peut être perçu comme une réduction de la cohésion interne. Et c'est exactement ce qu'on observe au niveau européen. On observe une convergence, une réduction des inégalités entre pays, mais qui se traduit par une divergence, une augmentation des inégalités régionales au sein des pays. Deuxième chose très rapidement, c'est que cette dimension territoriale de l'innovation, c'est le message que je veux faire passer, risque de renforcer la concurrence entre régions. Et ce, d'autant plus, sauf si elles arrivent à se différencier, mais on observe énormément d'effets mimétiques, plus que de différenciation, sauf d'autant plus que les IDE, les investissements directs étrangers, en particulier entre pays de l'OCDE, sont non seulement sensibles aux écarts de fiscalité sur les sociétés, mais aussi, de façon très significative, aux dépenses de recherche et de développement et aux dépenses d'éducation. Il existe des effets mimétiques très forts entre régions européennes qui concernent non seulement la fiscalité, mais aussi les dépenses d'éducation et les dépenses de recherche de développement. Le troisième point que je souhaiterais maintenant rapidement souligner, c'est qu'une région qui souhaite tirer profit de la recherche menée à l'extérieur de son territoire doit bénéficier d'une capacité d'absorption interne, c'est-à-dire qu'elle doit déjà bénéficier d'un niveau de recherche et de développement qui permet à ces entreprises et à la région d'absorber cette capacité. Construire une économie de la connaissance sans base et sans capacité d'absorption interne conduit évidemment non pas à la catastrophe, mais à des difficultés. Dernier point que je soulignerai ici, c'est la question de savoir est-ce qu'une région doit diversifier ou spécialiser. Ce que semblent montrer les études qui sont peu concluantes sur le plan empirique, c'est que la diversité semble ressortir plus nettement comme un déterminant de la croissance dans les secteurs de haute technologie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la cross-fertilisation entre différents secteurs qui sont favorables à la croissance, mais dans les secteurs plus traditionnels, ça n'est pas forcément le cas. Alors, je suis allé un petit peu vite, j'ai sans doute dépassé un petit peu mon horaire, je m'excuse auprès de tout le monde.
Oui, merci Thierry Madiès. On a compris. On a compris qu'il y avait un effet frontière à l'innovation, qu'il y avait aussi des risques de déséquilibre, de renforcer les déséquilibres entre les régions dynamiques en la matière et les régions moins favorisées du fait de la concentration. Maintenant, avec Sandra Poncet, on va voir si les critères qui ont été retenus par l'État pour sélectionner les pôles de compétitivité en 2005 sont des critères qui sont des critères fiables et qui sont des critères qu'on peut considérer comme de bons critères.
Alors, mon exposé va se s'établir dans la continuité de la présentation sur la dimension territoriale de l'innovation qui vient de vous être faite. L'idée des territoires, des pôles de compétitivité, était bien de regrouper au niveau local ce qu'on va appeler des gagnants. Et comme vous l'a dit Thierry Méadiès, il y a de très nombreux arguments théoriques, de nombreux modèles ont été développés, qui justifieraient cette volonté au niveau de l'État de mettre en commun les efforts d'innovation, notamment des entreprises. Alors ça revient à reparler des externalités informationnelles et d'innovation dont l'exposé parlait. Et cette idée d'avoir des pôles locaux correspond à cette idée que la distance en fait estompe très rapidement la capacité d'interaction entre les firmes. Il y a donc un aspect involontaire d'internaliser ces effets de diffusion, mais également éventuellement il y a l'attente d'une collaboration volontaire entre les entreprises au sein d'un même pôle, une volonté de partage des coûts, que ceux-ci correspondent à des activités de recherche communes, de développement commun, mais éventuellement de mise en commun d'infrastructures, de partage en fait pécunier. Donc il y a un aspect involontaire et un aspect volontaire. Donc théoriquement, on s'attend à ce que promouvoir la collaboration donne des gains, des bénéfices. Ce qu'il faut relativiser tout de même, c'est que dans la réalité, on a un bilan beaucoup plus nuancé. Pourquoi ? Ben, il y a plusieurs pistes d'explication. La première, c'est, et c'est surtout de celle-ci dont je parlerai, c'est que peut-être qu'on n'a pas sélectionné les bonnes entreprises, celles qui seront les mieux à même, de par leur collaboration, de faire émerger des innovations. Alors, soit parce que éventuellement les autorités en fait ne savent pas bien le faire, ou volontairement ou involontairement, elles ont continué à aider celles qu'elles aidaient précédemment, et souvent le soutien, notamment de la DATAR, c'était d'aider les entreprises en difficulté. Donc de sorte qu'on ne va pas donner de l'argent aux gagnants, mais éventuellement à ceux qui sont un peu en déclin, en lien avec l'idée que notamment la DATAR avait comme mission au départ, une mission de soutien. Donc, je pense que Thierry Meyer en reparlera quand il parlera des SPL, qui sont l'ancêtre des pôles de compétitivité. Une vision un peu plus négative, c'est d'identifier qu'il y a plutôt un effet de manipulation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la politique publique est captée, elle est manipulée par les entreprises elles-mêmes qui, par des effets de réseau, essaient plutôt de ramener des financements à eux, alors même qu'elles ne sont pas porteuses de projets qui justifieraient des financements. Une autre raison possible de l'absence d'impact qu'on peut mesurer, c'est que tout de même, on est en train d'essayer de mettre en commun des efforts volontaires de collaboration. Donc, quand il s'agit de la collaboration pour l'innovation, on peut se demander dans quelle mesure les entreprises qui sont des concurrentes ont vraiment une véritable incitation à collaborer. L'autre point qu'il faut voir, c'est souvent qu'on essaie de mesurer des bénéfices, mais on les met assez peu en regard avec les coûts. Et cette nécessité d'avoir recours à une analyse avantage-bénéfice est d'autant plus cruciale quand on aborde des budgets, comme dans le cas des pôles de compétitivité, qui sont vraiment peu négligeables. Au niveau des SPL, c'était des petits montants. Là, on parle de milliards d'euros, et donc c'est vraiment très important de mettre en regard les bénéfices et les dépenses. Alors, c'est pour ça que, pour moi, l'évaluation est cruciale. Et par évaluation, je n'entends pas juste l'étude par une agence, on va dire, qui chercherait à identifier est-ce qu'administrativement, on a fait du bon boulot ? Est-ce qu'au niveau organisationnel, la sélection et les décaissements se sont faits comme planifiés ? Moi, j'entends la mise en œuvre d'une évaluation scientifique qui ressemblerait beaucoup à ce que l'on met en place quand on essaie de regarder l'impact d'un médicament, par exemple. Et donc, ça nécessite des données, ça nécessite des outils techniques, puisque tout l'objectif, ça va être d'identifier, en fait, qu'est-ce qui se serait passé en l'absence du projet, en l'absence de ces financements. Donc la mise en évidence de ce qu'on appelle le contrefactuel. Et c'est éminemment compliqué, ça va bien au-delà que de regarder si, grosso modo, l'ensemble de l'argent a été dépensé, qu'il n'y a pas eu de détournement et que les choses se sont, grosso modo, bien passées. Pourquoi l'évaluation scientifique est importante ? Ben, tout simplement parce qu'elle va mettre en évidence des bonnes pratiques, notamment, et que ça va pouvoir aider à structurer les initiatives futures. Évidemment, elle pourra alerter et empêcher préventivement que les initiatives puissent être captées, détournées de leur objectif premier. Et surtout, elles vont permettre d'estimer la rentabilité de la manœuvre, c'est-à-dire mettre en regard les coûts et les bénéfices. Et c'est d'autant plus important quand il s'agit de sommes importantes pour justifier que 1,5 milliard soit dévolu à l'action des pôles de compétitivité et pas, par exemple, à renflouer, moi je ne sais pas, une caisse sociale ou à être dépensé pour soutenir l'éducation. Donc, c'est pas juste de trouver qu'il y a une rentabilité positive, c'est aussi de comparer cette rentabilité à la rentabilité d'autres projets que l'État pourrait financer, sachant les problèmes de ressources, c'est d'autant plus important. Alors, il y a deux types d'évaluations qui sont, à mon avis, complémentaires. L'évaluation qui se font ex ante et qui regardent plutôt en fait, la capacité de l'État d'identifier ses gagnants, on va dire, plutôt que les perdants et des entreprises qui sont déjà en relatif déclin. On pourrait se dire que c'est surtout pas à eux qu'il faudrait fournir de l'argent, même si, je vais vous le dire, ça peut être éventuellement controversé. Et des évaluations ex post sur l'impact, donc mesurer vraiment les bénéfices. Alors, pour l'instant, je pense que pour les pôles de compétitivité, il n'y a pas d'évaluation ex post qui mesure véritablement l'impact. Il y en a sur les SPL, c'est l'orateur futur qui vous en parlera. Moi, je peux juste déjà vous parler de certains travaux en cours et sur l'évaluation ex ante de la sélection des pôles de compétitivité. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on a bien sélectionné les champions ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire champion ? Grosso modo, on s'attend à utiliser des mesures de performance. Donc, nous, on a eu recours à des indicateurs au niveau des entreprises qui mesurent notamment la performance à l'exportation. Donc, utiliser des informations sur la valeur, le volume, les prix des exportations, combien de pays sont atteints par les entreprises, combien de produits sont exportés, la distance moyenne des exportations de ces firmes, en niveau et en croissance. Et notre objectif, à côté de l'étude de ces performances à l'exportation, était aussi de regarder des performances plutôt productives, à savoir la productivité ou la taille. Okay. Et ce qu'on s'est demandé, c'est est-ce que le processus de sélection des entreprises par les pôles de compétitivité a réussi à ne donner de l'argent qu'à des entreprises qui, relativement aux autres, celles qui auraient pu être sélectionnées, sont meilleures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le processus de sélection des entreprises et de financement de ces entreprises s'est fait en deux étapes. Tout d'abord, on a labellisé des pôles, au total 71 sur les 105 candidatures. Et ensuite, au sein de ces pôles, on a offert des financements aux entreprises qui étaient labellisables. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que déjà on a choisi les bonnes localités ? C'est-à-dire que quand on a cherché à labelliser un pôle boucherie, est-ce qu'on a choisi la bonne zone géographique pour soutenir cette activité ? Donc la première question, c'est pour un secteur considéré, est-ce que les territoires qu'on a choisis pour être inclus dans un pôle de compétitivité regroupent des entreprises qui sont plus performantes que la moyenne ? La deuxième étape de la sélection consiste à, au sein de ces territoires choisis, pour notamment donc, l'activité viande, est-ce qu'on a sélectionné et on a financé des entreprises pour cette paire secteur-territoire qui sont, elles encore, plus performantes que les autres, okay, c'est-à-dire des entreprises qui font de la boucherie mais qui sont ailleurs et qui ne sont pas donc dans un pôle. Alors juste pour répondre rapidement à ces deux questions, sur l'étape 1, manifestement, la réponse est clairement oui. C'est-à-dire que pour l'ensemble des indicateurs qu'on a utilisés, on mesure vraiment une surperformance, ce qu'on va appeler, nous, une prime à l'exportation, puisqu'on mesure surtout la performance à travers la performance à l'exportation. Donc on mesure une surperformance des territoires qui ont été choisis pour une activité donnée. Et ce qu'on voit bien, c'est que cette surperformance, elle est croissante avec l'ambition du pôle. C'est-à-dire qu'on a une plus petite surperformance pour les pôles nationaux, une plus grande pour les pôles à vocation mondiale et une plus grande encore pour les pôles mondiaux. À titre d'exemple, pour les pôles mondiaux, on observe que les entreprises qui exportent, exportent en moyenne 6 fois plus que celles qui sont dans cette même activité, mais dans un territoire qui n'a pas été choisi pour être dans un pôle. Sur la deuxième étape, à savoir la sélection des entreprises à financer, on trouve à nouveau, quand on regarde les entreprises qui ont eu accès à des financements, qu'elles sont elles aussi surperformantes par rapport à des entreprises qui n'ont pas eu de financement. Mais, et c'est un mais d'importance, cette surperformance à l'exportation s'explique quasiment entièrement par des caractéristiques spécifiques à la firme que le décideur politique peut observer facilement, à savoir sa taille en termes de nombre d'emplois et sa productivité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par le processus de cluster, il n'y a pas eu la possibilité d'extraire des informations supplémentaires que ne l'a donné l'identification du territoire lui-même. On n'a pas obtenu des informations supplémentaires pour identifier qui est vraiment un surperformeur à l'exportation dans ce territoire donné. La seule exception étant les pôles nationaux, qui sont sûrement tellement hétérogènes que pour le coup, certaines informations ont pu être extraites. Donc, ici, il y a un bilan qui pourrait être pire, hein, à savoir que, clairement, on n'a pas sélectionné les perdants, on va dire. On a sélectionné des champions, mais qui ne sont pas plus champions que leurs caractéristiques directement observables n'induiraient. Alors, peut-être que pour conclure, je peux quand même revenir à cette idée de est-ce que sélectionner les champions est quand même une bonne idée au départ. Et c'est vrai que finalement, on a un petit dilemme, c'est-à-dire que même nous, quand on s'intéresse à cette question, est-ce que les pôles de compétitivité incluent les meilleures firmes françaises, on est face à un dilemme au sens dynamique, à savoir est-ce que les champions d'aujourd'hui sont vraiment les champions de demain ? Parce que le vrai enjeu des pôles de compétitivité, c'est d'identifier et de soutenir l'innovation future. Or, il est bien possible que finalement, soutenir des champions contemporains, ou même éventuellement même les champions d'hier, soit au final contre-productif, dans la mesure où ce que ça fait, c'est ça aide des entreprises, et donc ça érige des barrières à l'entrée, ça empêche la possibilité que leur suprématie soit remise en cause par des entreprises naissantes. Or, l'innovation et la compétitivité émanent plus d'un foisonnement, d'un processus de création et donc de destruction des entreprises déjà en place, qui ne justifierait pas qu'on s'intéresse plus aux champions d'aujourd'hui ou d'hier, mais qu'on essaie d'identifier les champions de demain. Tâche d'autant plus difficile pour quelqu'un qui va avoir utilisé des données contemporaines, et donc c'est quasiment impossible d'identifier factuellement qui sera le champion de demain. Donc au final, on se retrouve face à un arbitrage. C'est-à-dire qu'on sait qu'on aimerait concentrer les moyens sur les champions de demain, mais on ne sait pas qui ils sont. On sait qu'il faut surtout éviter le saupoudrage et donc éviter de prendre le risque d'aider un peu tout le monde en se disant, ben voilà, du coup j'aide tout le monde, les champions et les autres. Et donc au final, quand on regarde les statistiques, il y a deux observations un peu contradictoires. La première, c'est qu'effectivement, on a labellisé 71 pôles sur 105 candidatures, donc on peut se dire qu'on n'a pas été très sélectif. Pour autant, quand on regarde les chiffres et quand on regarde quelles sont les entreprises qui ont été sélectionnées, on se rend compte qu'on a aidé que 2% des entreprises qui exportent en France. Donc finalement, ça a été relativement sélectif en termes de nombre de firmes. On a aidé 2% des firmes, mais ces entreprises représentent 20% des exportations. Donc l'un dans l'autre, on a été sélectif, mais pas trop, et c'est peut-être ce qu'il faut faire. Voilà.
Merci Sandra Poncet. On a compris que le bilan était mitigé et qu'il y avait nécessité de faire une évaluation qui s'apparente à celle qu'on voit dans les industries pharmaceutiques avant le lancement d'un médicament ou après le lancement.
Je vais donner la parole aujourd'hui à Thierry Meyer, qui va confirmer que les clusters sont des dispositifs qui fonctionnent bien. Cependant, est-il nécessaire que l'État intervienne pour promouvoir, consolider ce qui peut-être se serait agrégé naturellement ?